MIPIM 2021, Time to Reconnect. Le premier événement permettant à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver et d'échanger à nouveau. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Imo.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de MIPIM en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes. Un MIPIM qui s'achèvera ce soir, mais on n'y est pas encore. Et en attendant, on a pas mal de belles rencontres à vous faire faire. On a démarré la journée en parlant investissement avec Apicap. Et cette fois, eh bien, nous allons nous diriger vers nos territoires, et même vers un très beau territoire dans le sud de la France. C'est le territoire de Nice. Et pour en parler, je suis en compagnie de Sarah Bélier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Nice Écovallée. Et à vos côtés, on accueille Philippe Pradal. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil d'administration de ce même EPA de Nice Écovallée. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau ce matin. Alors avant de parler un peu de votre territoire, on va planter le décor si vous le voulez bien. Lequel de nous deux peut nous présenter un peu ce territoire?
Je vais laisser madame la directrice générale.
Sarah, on vous écoute.
Le territoire de la plaine du Var est situé donc au cœur de la métropole Nice-Côte d'Azur et couvre à peu près un territoire de 10 000 hectares et rassemble 15 communes. C'est le dernier un peu espace plan sur lequel un développement peut être envisagé. Et la volonté et l'ambition dès le départ sur l'aménagement de ce territoire est d'en faire une éco-vallée. Alors éco-vallée a deux significations, aussi bien écologie qu'économie, de très fortes ambitions environnementales qui nous ont amené à avoir un référentiel propre et autres. Et c'est effectivement le dernier secteur à aménager pour pouvoir assurer une diversification et une impulsion économique forte au territoire métropolitain que l'on souhaite pouvoir amener en pleine concertation, en pleine cohérence avec la stratégie de développement économique portée et de diversification.
Donc ça c'est intéressant, ça veut dire, si je comprends bien, que chez vous, on a su allier écologie et économie.
C'était un enjeu très important pour le territoire, une intuition ancienne de Christian Estrosi, qui est de dire que le développement économique ne pourra pas se faire sans respecter les fondamentaux du développement durable, et y compris dans leur dimension du développement durable humain, d'où des mesures à prendre en matière de logement, en matière de mobilité, et également le fait que ceux qui aujourd'hui opposent l'économie à l'écologie sont destructeurs, très probablement de l'une et de l'autre. Et malheureusement, les événements récents, les plus récents de cet été, mais il y a à peine un an, la tempête Alex frappait très durement notre département et la métropole Nice-Côte d'Azur notamment, ont démontré que cette intuition, mise en œuvre par la création de l'éco-vallée, était complètement juste, justifiée, et que s'il y a un schéma de développement aujourd'hui possible, il devra se faire dans le respect du développement durable, de cette durabilité, de ce développement soutenable, comme le disent les anglo-saxons, parce que l'enjeu, il est vraiment là.
Ça, c'est très bien. Vous venez nous prouver que finalement, ce n'est pas aussi antinomique que des gens veulent nous le faire croire. Ce n'est pas parce qu'on développe des résidences, l'immobilier résidentiel, qu'on est anti-écologique. Et ce n'est pas parce qu'on donne la part belle au secteur d'activité, je pense notamment à la logistique, qu'on est contre l'environnement.
Tout à fait.
C'est même, je dirais presque le contraire, négliger le fait que nous avons le devoir de réconcilier ces objectifs et courir à l'échec. Enfin, vous avez évoqué deux sujets très importants, qui est le logement et la logistique. Quand va-t-on arrêter de construire des logements aux endroits où il n'y a pas d'emploi et d'obliger les gens à se déplacer lourdement avec des moyens qui, même sont les plus respectueux possibles de l'environnement, sont consommateurs de temps, donc sont producteurs forcément de perte de temps, donc de perte de qualité de vie, voire dans certains cas de stress. Donc la qualité de vie suppose que l'on habite au plus près possible de son emploi. La logistique, elle est complètement essentielle. Les métropoles qui ne se préoccupent pas de la logistique au sens large et de la mobilité au sens large, là aussi, courent à l'échec. Et cette logistique du dernier kilomètre, voire du dernier hectomètre, qui d'ailleurs peut se faire, j'en parlais avec des créateurs d'entreprises et des pros de la logistique sur le territoire niçois, qui disent qu'il faut que nous réfléchissions aussi peut-être sur le fait de livrer des petits colis à pied. Parce que peut-être que le bon déplacement, si on a suffisamment dégroupé et suffisamment en amont, c'est de le faire à pied, de le faire en vélo, de le faire en roller, de le faire avec tous ces moyens doux. Et ce sont les enjeux auxquels sont confrontés les territoires de demain, de cette ville du quart d'heure qui a été théorisée de façon importante et qui est un des enjeux très importants de l'éco-vallée. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un immeuble, on essaye qu'il y ait de la mixité à l'intérieur et surtout on essaye que soit offert à proximité, pas immédiate pour tous les services, mais à proximité immédiate pour les services essentiels, tout ce dont on a besoin pour vivre, pour acheter son pain, pour aller voir un médecin, pour retrouver un certain nombre d'activités. Si les villes se construisent sans respecter ça, eh ben je pense qu'elles disparaîtront.
Donc c'est ça pour vous, l'avenir des villes, qu'elles soient grandes, moyennes ou même petites. Ce sont des espaces mixtes, peut-être également des tiers-lieux.
Oui, des villes très certainement polycentrées, c'est-à-dire sortir de l'aspect ville-centre, où certes on va trouver ce qu'on appelle les charges de centralité habituelles. Bien sûr qu'on ne va pas trouver tous les musées dans tous les quartiers, on ne va pas trouver un certain nombre de choses, tous les grands hôpitaux dans tous les quartiers, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on trouve à proximité ce rêve de pouvoir trouver à un quart d'heure, 20 minutes, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, n'est pas un rêve, est un impératif.
Parce qu'on est d'accord pour dire que tout le monde ne peut pas vivre dans Nice, dans le cœur de Nice.
Et tout le monde,
que ce soit pour des raisons économiques ou même des raisons de foncier et d'espace, tout simplement.
Et tout le monde ne le souhaite pas. Et je pense qu'il faut aussi mesurer cette dimension. En plus, il y a des activités qu'il n'est pas rationnel d'implanter dans les centres-villes. Et l'idée, véritablement, de trouver tout et qu'à peu près partout, on trouve des activités, à peu près partout, on trouve de l'habitat et à peu près partout, on trouve les services qui font que lorsque j'habite à un endroit, je suis dans mon quartier, je ne suis pas dans un quartier où je suis malheureusement confiné, sans parler de la crise sanitaire, et obligé de faire un déplacement peut faire une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, pour aller trouver quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie quotidienne.
Est-ce qu'il y a
Juste un complément à ce que vient de dire Monsieur le Président. C'est également de se questionner sur comment on ramène la nature en ville. Outre la question des fertilisations croisées et de tous les usages dont on a besoin de trouver dans le cadre de la ville du quart d'heure, il y a aussi cette problématique prégnante de retrouver de la nature en ville.
Ça veut dire que chez vous, les éco-quartiers prévaut ?
Oui, tout à fait. Toutes les actes que nous aménageons sont labellisés éco-quartiers et on cherche vraiment à ce qu'elle soit éco-exemplaire.
Alors justement, est-ce que vous avez peut-être un projet à nous citer et à nous décrire qui serait un peu un exemple dans ce chemin-là ?
Alors en fait, on développe différentes axes sur cette partie du territoire et chacune a une identité un petit peu, puisque ce qui fait aussi une centralité, c'est une identité. On a à l'heure actuelle en phase opérationnelle deux axes véritablement, celle du Grand Arenas et celle de Méridia. Sur le Grand Arenas, on n'est plus sur un quartier d'affaires jusqu'à présent, où là l'ambition est justement de lui apporter toutes les aménités qui vont en faire un quartier de vie, et un quartier de vie 7 jours sur 7 et pas seulement sur des horaires de travail. Et sur la ZAC de Méridia, on est sur une ambition de technopole urbaine où on souhaite arriver à croiser complètement de l'enseignement, de la R&D et du logement. Un endroit où on puisse vivre, étudier, rechercher et se divertir.
Un lieu de vie en somme.
Exactement. Et on a un quartier important aussi en réflexion avec un maître d'œuvre urbain qui est Architecture Studio, qui est Parc Méridia, où nous travaillons vraiment de concert avec les services de la métropole, puisque quand je parlais de nature en ville, il y a quand même un projet d'un parc de plus de 30 hectares paysagers qui est porté par la métropole et qui sera le cœur de cette future centralité.
Donc on voit bien votre feuille de route à travers tous ces projets, toutes ces envies. Est-ce que la crise sanitaire qu'on vient de traverser, on va dire qu'on est au bout, en tout cas on va l'espérer, a changé la donne et vous a peut-être forcé à emprunter d'autres voies ou pas ?
À emprunter d'autres voies, enfin sans trop d'immodestie, probablement pas. À approfondir des voies, oui, parce que là aussi, ce qu'a révélé la crise sanitaire dans ses différentes dimensions, c'est que bien souvent les logements n'étaient pas adaptés à une vie longue et que très certainement aujourd'hui on pouvait dormir et avoir un minimum de loisirs dans beaucoup de nos logements, mais qu'en revanche il était difficile d'y faire autre chose, et notamment d'y faire cohabiter aujourd'hui des familles avec des enfants qui grandissent, etc. Donc ça c'est le premier point. Le second point, ça a aussi démontré qu'on pouvait travailler ailleurs, au moins dans un certain nombre d'activités, et pas toutes. Et je voudrais à cette occasion saluer ceux qui ne pouvaient pas télétravailler et qui ont probablement, pour employer un terme un peu trivial, tenu la maison au début de la crise sanitaire. Et je ne dis pas qu'on l'a oublié, mais je trouve qu'on en parle moins, et je voulais le dire quand même. Et on s'est rendu compte aussi que pour ceux qui pouvaient travailler en dehors de leur lieu habituel de travail, il fallait trouver des solutions, et que le logement n'était pas forcément la solution. C'était une solution d'urgence. Et ces points qui avaient été envisagés dans le cadre de l'ensemble des projets que porte l'EPA à l'initiative de Christian Estrosi ont été approfondis. Oui, il faudra du tiers-lieu, de plus en plus, et très probablement du tiers-lieu métissé, C'est-à-dire, le lieu de travail est un lieu de rencontre, et peut-être faut-il sortir du fait que le lieu de travail est le lieu de rencontre de mes collègues de travail, que ce soit peut-être le lieu de rencontre des autres actifs de mon quartier, avec lequel je peux avoir des problématiques communes, avec lequel je peux élaborer des solutions communes, qu'elles soient dans le cadre de l'animation du quartier, qu'elles soient dans le cadre de solutions à trouver pour les enfants. Donc ça, c'est un point très important, c'est le point sur lequel nous sommes. Et on s'est rendu compte, et mécaniquement aussi, que cela pèse sur la façon dont nous avons construit nos façons de travailler, pour apporter le témoignage peut-être plus direct de la collectivité, puisque j'ai l'honneur d'avoir la responsabilité de la gestion des ressources humaines de la ville de Nice et de la métropole. On s'est rendu compte que ces grands bâtiments administratifs, où on loge de nombreux administratifs qui travaillent ensemble, etc., ne correspondent plus aujourd'hui ni forcément aux souhaits des personnes qui y travaillent, ni même à la rationalité d'y travailler, parce que j'ai besoin, même quand je suis dans un bureau, de travailler au plus près des équipes opérationnelles, et j'ai peut-être besoin d'avoir un bureau quelque part, là où sont les équipes opérationnelles de temps en temps, et non pas un bureau où je vais convoquer les gens. Donc c'est, tous ces éléments sont complètement réfléchis, et l'éco-vallée accentue ça de deux façons. La première, c'est de réfléchir aujourd'hui à des logements en se disant, le logement, c'est pas forcément un endroit qu'on rejoint à 19h30 et qu'on quitte à 7h du matin. C'est peut-être autre chose. Et l'autre point, c'est de dire aussi que le lieu où je travaille, c'est plus forcément le lieu que je vais m'approprier définitivement, mais c'est un lieu dans lequel il va falloir que je trouve tout ce dont j'ai besoin pour travailler, mais qui n'est pas forcément le lieu où je vais travailler pendant toute la semaine de façon régulière, etc. Et donc c'est cette construction à la fois des mixités des usages, de lieux de tiers-lieux, de lieux métissés, qui sont vraiment complètement en réflexion, parce que si je peux trouver 3 ou 4 jours par semaine la possibilité de travailler à 10 minutes à pied de chez moi, je pense que nous aurons gagné, parce que nous aurons construit la ville que les gens vont apprécier. Il y a un auteur, pardon d'être grossier, qui vient de sortir un livre sur la ville pas chiante. Ben, je crois que c'est ça. Je crois que ce peut-être a révélé la crise sanitaire, c'est qu'un certain nombre de nos centres-villes, notamment centres-villes importants, n'étaient plus vécus comme agréables. Et donc, il faut, quand on construit une nouvelle ville et quand on renature la ville, quand on reconstruit les centres-villes existants, quand on retravaille les centres-villes existants, qu'on intègre cette dimension de dire comment on réenchante la ville pour ses habitants. La crise sanitaire nous obligeant à le faire de façon plus active, mais l'éco-vallée a été non pas précurseur, mais avait intégré une partie de cette réflexion ab initio, ce qui nous a permis, je dirais, de ne pas prendre la crise sanitaire, de ne pas nous obliger à repartir d'une feuille blanche.
Sarah Bellier, vous souhaitez ajouter quelque chose là-dessus ?
Je dirais que peut-être aussi sur les ambitions que l'on porte, que la crise sanitaire a accentué chez nous, je l'ai rappelé en liminaire, l'ambition est vraiment d'assurer une dynamique économique sur le territoire. Je crois qu'à aujourd'hui, il y a une nouvelle relation à tisser entre aménageurs et promoteurs, qui doivent aussi envisager différemment leur métier. Ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est pas simplement de se dire, quand on fait de l'aménagement, on cherche à délivrer et à produire du contenant capable d'accueillir des activités à l'avenir. Je pense que dès le début, il faut que l'on s'interroge ensemble sur le contenu et de se dire comment on arrive à produire, comment on arrive à rendre plus attractif et à pouvoir offrir sur le marché des solutions complètement ou clé en main ou autre, ou sur mesure, pour que des entreprises puissent venir s'implanter plus facilement. Et ça c'est une façon un petit peu... en tout cas, le Covid nous a interrogés sur nos modes de consultation et nos relations avec les promoteurs, et nous testons à l'heure actuelle des appels à candidature directs auprès d'entreprises avant de tisser des relations avec les acteurs de l'acte de bâtir.
On a déjà une idée du coup de vos projets pour demain et même pour après-demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Sarah Bellier, directrice générale de l'EPA Nice Eco Vallée, et Philippe Pradal, le président du conseil d'administration de ce même EPA. Merci à tous les deux, une très bonne journée, une bonne fin de MIPIM. Quant à nous, on se retrouve très très vite avec deux nouvelles interviews en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes pour cette dernière journée du MIPIM édition 2021. À plus tard.
Merci. Merci.
MIPIM 2021, Time to Reconnect, les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.